Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Avec Christopher Dembick qui est avec nous par téléphone. Bonjour Christopher.
Bonjour.
On va parler de la croissance chinoise. Les chiffres ont été publiés ce matin. 5,3% de hausse, 5,3% de croissance pardon, en rythme annuel, 5,2% le trimestre précédent. Alors c'était plus que le consensus du marché. Pour autant, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Certains analystes ont relevé que d'abord, la croissance avait été dopée au premier trimestre par des mesures budgétaires et surtout qu'elle commençait à s'essouffler au mois de mars.
Alors, on a des signaux qui sont très contrastés sur l'économie chinoise. D'un côté, on a quand même, alors on part de très bas, mais on a une consommation en Chine qui commence avec quelques petits signaux qui sont positifs. Mais encore une fois, j'insiste, on part de très bas, donc il faut être très prudent à cet égard. On n'est pas sûr et certain qu'on va avoir une continuation. On a à quasiment sur tous les secteurs d'activité, si on regarde les données du mois de février, du mois de mars, on a une légère amélioration de la situation. Bien sûr, il y a toujours l'exception du secteur de l'immobilier, mais bon, ça c'est inévitable et ça va perdurer. En revanche, effectivement, on est sur une économie chinoise qui fonctionne beaucoup par des tentatives de relance. Alors, on est très loin des gros plans de relance budgétaires, hein, parce que typiquement, par exemple, au mois de janvier, vous avez l'annulation d'une douzaine de projets d'infrastructures dans plusieurs régions par le gouvernement chinois. Donc, il y a des signaux qui sont mitigés. On est finalement sur une politique de pilotage fin, avec quelques signaux qui sont envoyés ici et là. On est aussi avec énormément de rumeurs de marché. Le marché évoque que ce soit une dépréciation du yuan chinois. Alors que si vous regardez les données, notamment du point de vue du taux de change et de la réserve, des réserves de la Banque centrale, on n'est pas du tout sur une politique de dépréciation depuis plusieurs semaines. Il y a aussi beaucoup de rumeurs sur des éventuelles mesures en direction de la consommation, notamment une sorte de distribution de cash, un peu ce retour de l'hélicoptère monnaie qu'on avait évoqué pendant la Covid. Je pense qu'il faut être très prudent sur la Chine. Mon point de vue, c'est qu'effectivement, c'est une bonne performance qui est liée à des mesures de court terme, de relance très spécifiques, mais que la Chine cherche aujourd'hui surtout à avoir une croissance qui soit plus en harmonie avec la nécessité de dégonfler des éventuelles bulles. Et le signal était quand même très clair, on est sur une réduction des dépenses d'infrastructure notamment, donc moi, on n'est pas sur une grosse politique de relance qui va être massive.
On va parler également des États-Unis avec un calcul qui a été effectué par Bank of America et qui nous dit que si on poursuit la tendance actuelle en matière de reprise de l'inflation, on atteindra 4,8% d'inflation en rythme annuel aux États-Unis au mois de novembre lorsque les élections auront lieu. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a un risque de retour de l'inflation marqué aux États-Unis?
Alors, pas aussi marqué, et bien sûr, c'est un calcul, je vois à quel calcul vous faites référence, qui base effectivement sur une continuation de la tendance, c'est relativement peu probable. En revanche, on a plusieurs signaux qui sont très clairs, que ce soit sur le marché du travail où les pressions inflationnistes sont revenues depuis deux mois. Un Américain qui décide de changer d'emploi aujourd'hui, il a en moyenne une hausse de salaire de 10%, ce qui est quand même massif. C'est très récent, hein, puisqu'on a cette reprise à la hausse des salaires depuis deux mois. On voit également, bien évidemment, qu'au niveau de l'indice des prix à la consommation, c'était compliqué, les prix à la production aussi. Finalement, foncièrement, ça se traduit quoi? Ça traduit une économie qui est dopée par du déficit budgétaire, ce qui est bien évidemment un certain stade inflationniste. Il faut s'attendre à ce que la lutte contre l'inflation, et ça c'était quand même quelque chose qu'on savait depuis plusieurs mois, serait plus compliqué aux États-Unis qu'en zone euro ou ailleurs sur la planète. En revanche, de mon point de vue, c'est vrai que ça confirme le fait que la Fed n'a pas une nécessité de baisser les taux de manière très rapide parce que la lutte contre l'inflation est très 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 loin d'être finie, sans compter qu'on peut, plus on va se rapprocher de l'élection présidentielle, plus on aura le risque géopolitique, les tarifs douaniers qui sont par nature inflationnistes aussi, qui vont revenir dans le débat. Et ça, bien sûr, c'est des éléments à prendre en termes de prudence. Mais rappelez-vous quand même quelque chose, le consensus des économistes, pour le fond, n'est pas complètement tort, c'est-à-dire le rythme de croissance à moyen terme pour les États-Unis, on est plus sur 3-4%. Donc il faut garder ça aussi en tête, on sait que ce sera dans tous les cas une inflation qui sera beaucoup plus élevée aux États-Unis qu'en zone euro typiquement.
Christopher, la prochaine réunion de la Fed, ce sera dans 15 jours exactement. Elle va se réunir à la fin du mois d'avril. La décision, ce sera le 1er mai. Est-ce que vous croyez, vous, au scénario d'un statu quo monétaire jusqu'à la fin de l'année aux États-Unis?
Alors, jusqu'à la fin de l'année, ça va être compliqué pour deux raisons. La première, c'est qu'il va falloir gérer les anticipations du marché. Rappelez-vous, le marché est à 8 baisses de taux en début d'année, c'était bien sûr exagéré, mais passer à zéro, ça va être quand même compliqué à gérer. Donc, il faut amorcer à un certain stade le cycle d'assouplissement, même s'il sera beaucoup plus lent que prévu. Et l'autre côté, c'est qu'il y a quand même un sujet budgétaire. J'en parlais, on est sur une croissance dopée par le budgétaire. Et si on continue à taux d'intérêt constant à l'heure actuelle, ça voudra dire que d'ici à la fin de l'année, vous allez avoir la charge d'intérêt qui représente 6% du PIB. Donc, il faut quand même aussi baisser les taux. C'est certainement un point que la Fed en tête pour aussi que derrière cela, que la charge de la dette soit un peu moins lourde pour le gouvernement américain. Ça peut être un argument pour, en tout cas, infléchir lentement la politique monétaire vers de l'assouplissement. Je doute très honnêtement qu'on puisse être sur zéro baisse de taux et le statu quo d'ici la fin d'année. C'est, à mon avis, intenable du point de vue budgétaire, en tout cas.
Merci beaucoup, Christopher Demby, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.